Chapitre 6. Le Ford Hercule. Quand il descend de la station de gare avant, quelle que soit la saison qui le voit venir en ce pays enchanté, le voyageur peut se croire parvenu en ce jardin des Hespérides dont les pommes d'or excitèrent les convoitises du vainqueur du monstre de Némée. Je n'aurais peut-être point, cependant, à l'occasion des innombrables citronniers et orangers qui, dans l'air embaumé, laissent pendre au long des sentiers par-dessus les clôtures leurs grappes de soleil, je n'aurais peut-être point évoqué le souvenir suranné du fils de Jupiter et d'Alcmène, si tout ici ne rappelait sa gloire mythologique et sa promenade fabuleuse à la plus douce des rives. On raconte bien que les Phéniciens, en transportant leurs pénates à l'ombre du rocher que devaient habiter un jour les Grimaldi, donnèrent au petit port qu'il abrite et tout le long de la côte, un mont, un cap, à une presqu'île qui l'ont conservé, ce nom d'Hercule, qui était celui de leur dieu. Mais moi, j'imagine que ce nom, ils l'y trouvèrent déjà, et que si en vérité les divinités fatiguées de la poussière blonde des chemins de l'Hellade s'en furent chercher ailleurs un merveilleux séjour, tièdes et parfumées pour s'y reposer de leurs aventures, elles n'en ont point trouvé de plus beau que celui-là. Ce furent les premiers touristes de la Riviera. Le jardin des Hespérides n'était pas ailleurs, et Hercule avait préparé la place à ses camarades de l'Olympe en les débarrassant de ce méchant dragon à 100 têtes qui voulait conserver la Côte d'Azur pour lui tout seul. Aussi, je ne suis point bien sûr que les eaux de l'Elephas Anticus, découvert il y a quelques années au fond des Rochers Rouges, ne sont pas les eaux de ce dragon-là. Quand, descendant tous de la gare, nous fûmes arrivés en silence au rivage, nos yeux furent tout de suite frappés par la silhouette éblouissante du château fort debout sur la presqu'île d'Hercule, que les travaux accomplis sur la frontière ont fait, hélas, disparaître depuis une dizaine d'années. Les feux obliques du soleil qui allaient frapper les murs de la vieille tour carrée la faisaient éclater sur la mer comme une cuirasse. Elle semblait garder encore, vieille sentinelle, toute rajeunie de lumière, cette baie de gare avant recourbée comme une faucille d'azur. Et puis, au fur et à mesure que nous avançâmes, son éclat s'éteignit. L'astre derrière nous s'était incliné vers la crête des monts. Les promontoires à l'occident s'enveloppaient déjà à l'approche du soir de leur écharpe de pourpre, et le château n'était plus qu'une ombre menaçante et hostile quand nous en franchîmes le seuil. Sur les premières marches d'un étroit escalier qui conduisait à l'une des tours, se tenait une pâle et charmante figure. C'était la femme d'Arthur Rance, la belle et étincelante Edith. Certes, la fiancée de la mère Moore n'était pas plus blanche le jour où le jeune étranger aux yeux noirs la sauva d'un taureau impétueux. Mais Lucie avait les yeux bleus, mais Lucie était blonde. Oh, Edith! Oh, quand on veut faire figure romanesque dans un cadre moyenâgeux, figure de princesse incertaine, lointaine, plaintive et mélancolique, il ne faut point voir ces yeux-là, my lady. Et votre chevelure est plus noire que l'aile d'un corbeau. Cette couleur n'est point dans le genre angélique. Êtes-vous un ange, Edith? Cette langueur est-elle bien naturelle? Cette douceur de vos traits ne ment-elle point? Pardon de vous poser toutes ces questions, Edith, mais quand je vous ai vue pour la première fois, après avoir été séduit par la délicate harmonie de toute votre blanche image, immobile sur ce perron de pierre, j'ai suivi le regard noir de vos yeux qui s'est posé sur la fille du professeur Stangerson, et j'ai vu qu'il avait un éclat dur qui faisait un contraste étrange avec le timbre amical de votre voix et le sourire nonchalant de votre bouche. La voix de cette jeune femme est d'un charme sûr, la grâce de toute sa personne est parfaite. Son geste est harmonieux. Aux présentations de Arthur Rance et naturellement chargées, elle répond de la façon la plus simple, la plus accueillante, la plus hospitalière. Rouletabille et moi tentons un effort poli pour conserver notre liberté. Nous formulons la possibilité de gîter ailleurs qu'au château d'Hercule. Elle a une moue délicieuse, hausse les épaules d'un geste enfantin, déclare que nos chambres sont prêtes et parle d'autre chose. Venez, venez, vous ne connaissez pas le château. Vous allez voir, vous allez voir. Oh, je vous montrerai la Louve une autre fois. C'est le seul endroit triste d'ici, c'est lugubre, sombre et froid. Oh, ça fait peur, j'adore avoir peur. Oh, monsieur Rouletabille, vous me racontez, n'est-ce pas, des histoires qui me feront peur. Et elle glisse dans sa robe blanche devant nous. Elle marche comme une comédienne. Elle est tout à fait singulièrement jolie, dans ce jardin d'Orient, entre cette vieille tour menaçante et les frêles arceaux fleuris d'une chapelle en ruine. La vaste cour que nous traversons est si bien garnie de toutes parts de plantes grasses, d'herbes et de feuillages, de cactus et d'aloès, de lauriers cerises, de roses sauvages et de marguerites, qu'on jurerait qu'un printemps éternel a élu domicile dans cette enceinte, jadis la baille du château où se réunissait toute la gente de guerre. Cette cour, de par l'aide des vents du ciel et de par la négligence des hommes, était venue naturellement jardin, un beau jardin fou, dans lequel on voit bien que la châtelaine a fait tailler le moins possible et qu'elle n'a point tenté de ramener trop brusquement à la raison. Derrière toute cette verdure et tout cet embaumement, on apercevait la plus gracieuse chose qui se put imaginer en architecture défunte. Figurez-vous les plus purs arceaux d'un gothique flamboyant élevés sur les premières assises de la vieille chapelle romane. Les piliers, habillés de plantes grimpantes, de géranium lierre et de verveine, s'élancent de leurs gaines parfumées et recourbent sur l'azur du ciel leur arc brisé que rien ne semble plus soutenir. Il n'y a plus de toit à cette chapelle, et elle n'a plus de mur. Il ne reste plus d'elle que ce morceau de dentelle de pierre qu'un miracle d'équilibre retient suspendu dans l'air du soir. Et à notre gauche, voici la tour énorme, massive, la tour du XIIe siècle, que les gens du pays appellent, nous raconte Mrs. Edith, la Louve, et que rien, ni le temps, ni les hommes, ni la paix, ni la guerre, ni le canon, ni la tempête, n'a pu ébranler. Elle est telle encore qu'elle apparut aux Sarrasins pillards en 1107, qui s'emparèrent des îles Lérins et qui ne purent rien contre le château d'Hercule. Telle qu'elle se montra à Salalgérie et à ses corsaires génois, quand ceux-ci ayant tout pris du fort, même la tour carrée, même le vieux château, elle tint bon, isolée, ses défenseurs ayant fait sauter les courtines qui la reliaient aux autres défenses, jusqu'à l'arrivée des princes de Provence qui la délivrèrent. Et c'est là que Mrs. Edith a élu domicile. Mais je cesse de regarder les choses pour regarder les gens. Arthur Rance, par exemple, regarde Madame Darzac. Quant à celle-ci et à Rouletabille, ils semblent loin, loin de nous. Monsieur Darzac et Monsieur Stangerson échangent des propos quelconques. Au fond, la même pensée habite tous ces gens qui ne se disent rien ou qui, lorsqu'ils se disent quelque chose, se mentent. Nous arrivons à une poterne. « C'est ce que nous appelons, » dit Edith, toujours avec son affectation d'enfantillage, « la tour du jardinier. De cette poterne, on découvre tout le fort, tout le château, le côté nord et le côté sud, voyez ?» Et son bras, qui traîne une écharpe, nous désigne des choses. « Toutes ces pierres ont leur histoire, je vous les dirai, si vous êtes bien sage. » « Comme Edith est gaie, » murmure Arthur Rance, « je pense qu'il n'y a qu'elle de gaie ici. » Nous avons passé sous la poterne, nous voici dans une nouvelle cour. Nous avons le vieux donjon en face de nous. L'aspect en est vraiment impressionnant. Il est haut et carré, aussi le désigne-t-on quelquefois sous cette appellation la tour carrée. Et comme cette tour occupe le coin le plus important de toute la fortification, on l'appelle encore la tour du coin. C'est le morceau le plus extraordinaire, le plus important de toute cette agglomération d'ouvrages défensifs. Les murs y sont plus épais que partout ailleurs et plus hauts. À mi-hauteur, c'est encore le ciment romain qui les scelle. Ce sont encore les pierres entassées par les colons de César. Là-bas, cette tour, dans le coin opposé, continue Edith, c'est la tour de Charles le Téméraire, ainsi appelée parce que c'est le duc qui en a fourni le plan quand il a fallu transformer les défenses du château pour résister à l'artillerie. Oh, je suis très savante. Le vieux Baob a fait de cette tour son cabinet d'études. C'est dommage, car nous aurions eu là une magnifique salle à manger. Mais je n'ai jamais rien su refuser au vieux Baob. Le vieux Baob, ajouta-t-elle, c'est mon oncle. C'est lui qui veut que je l'appelle comme ça depuis que j'ai toujours été toute petite. Il n'est pas ici en ce moment. Il est parti. Il est à 5 jours pour Paris et il revient demain. Il est allé comparer des pièces anatomiques qu'il a trouvées dans les Rochers Rouges avec celles du Musée d'Histoire Naturelle de Paris. Ah, voici une oubliette. Et elle nous montre, au milieu de cette seconde cour, un puits, qu'elle appelait oubliette par pur romantisme, et au-dessus duquel un eucalyptus, à la chair lisse et aux bras nus, se penchait comme une femme à la fontaine. Depuis que nous étions passés dans la seconde cour, nous comprenions mieux, moi du moins, car Rouletabille, de plus en plus indifférent à toute chose, ne semblait ni voir ni entendre. Nous comprenions mieux la disposition du fort Hercule. Comme cette disposition est d'une importance capitale dans les incroyables événements qui vont se produire presque aussitôt notre arrivée au Rocher Rouge, je vais mettre tout d'abord, sous les yeux du lecteur, le plan général du fort tel qu'il a été tracé plus tard par Rouletabille lui-même. Ici, le plan. Ce château avait été construit en 1140 par les seigneurs de la Mortella. Pour l'isoler complètement de la terre, ceux-ci n'avaient pas hésité à faire une île de cette presqu'île en coupant l'isthme minuscule qui la reliait au rivage. Sur le rivage même, ils avaient établi une barbacane, fortification sommaire en demi-cercle, destinée à protéger les approches du pont-levis et les deux tours d'entrée. Cette barbacane n'avait point laissé de traces, et l'isthme, dans la suite des siècles, avait retrouvé sa forme première. Le pont-levis avait été enlevé, le fossé avait été comblé. Les murs du château d'Hercule épousaient la forme de la presqu'île, qui était celle d'un hexagone irrégulier. Ces murs se dressaient au ras du roc, et celui-ci, par places, surplombait les eaux qui inlassablement le creusaient, si bien qu'une petite barque put s'y abriter par calme plat, et quand elle ne craignait point que le ressac ne la rejetât et ne la brisât contre ce plafond naturel. Cette disposition était merveilleuse pour la défense, qui n'avait guère dans ces conditions à craindre l'escalade de quelque côté que ce fût. On entrait donc dans le port par la porte nord, que gardaient les deux tours A et A', reliées par une voûte. Ces tours, qui avaient fort souffert lors des derniers sièges par les Génois, avaient été un peu réparées par la suite, et venait d'être mise en état d'être habitée par les soins de Mrs. Rance, qui en avait consacré les locaux à la domesticité. Le rez-de-chaussée de la tour A servait de logis au concierge. Une petite porte s'ouvrait dans le flanc de la tour A sous la voûte et permettait aux veilleurs de se rendre compte de toutes les entrées et sorties. Une lourde porte de chêne, bardé de fer dont les deux vantaux étaient repliés depuis d'innombrables années contre le mur intérieur des deux tours, ne servait plus de rien tant on l'avait trouvé difficile à manier, et l'entrée du château n'était fermée que par une petite grille que chacun ouvrait, maître ou fournisseur, à volonté. Cette entrée était la seule qui permit de pénétrer dans le château. Comme je l'ai dit, passé cette entrée, on se trouvait dans une première cour ou baille, fermée de tous côtés par le mur d'enceinte et par les tours ou ce qui restait des tours. Ces murs étaient loin d'avoir conservé leur hauteur première. Les courtines anciennes qui rejoignaient les tours avaient été rasées et étaient remplacées par une sorte de boulevard circulaire vers lequel on montait de l'intérieur de la baille par des rampes assez douces. Ces boulevards étaient encore couronnés d'un parapet percé de meurtrières pour les petites pièces. Car cette transformation avait eu lieu au XVe siècle, dans le moment où tout châtelain devait commencer à compter sérieusement avec l'artillerie. Quant aux tours B', 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 qui avaient longtemps encore conservé leur homogénéité et leur hauteur première, et pour lesquelles on s'était borné à cette époque à supprimer le toit pointu qui avait été remplacé par une plateforme destinée à supporter de l'artillerie, elles avaient été plus tard rasées à la hauteur du parapet des boulevards, et l'on avait fait des sortes de demi-lunes. Cette opération avait été accomplie au XVIIe siècle lors de la construction d'un château moderne, appelé encore Château Neuf, bien qu'il fût en ruine, et cela pour déblayer la cour du dit château. Ce château neuf était placé en C', C'. Sur le terre-plein des anciennes tours, terre-plein entouré lui aussi d'un parapet, on avait planté des palmiers qui du reste avaient mal poussé, brûlés par le solan et l'eau de mer. Quand on se penchait au-dessus du parapet circulaire qui faisait tout le tour de la propriété, en surplombant le roc avec lequel il faisait corps, roc qui lui-même surplombait la mer, on se rendait compte que le château continuait à être aussi fermé que dans le temps où les courtines des murs atteignaient aux deux tiers de la hauteur des vieilles tours. La louve avait été respectée, comme je l'ai dit, et il n'était point jusqu'à son échauguette, restaurée bien entendu, qui ne dressa sa silhouette étrangement vieillotte au-dessus de l'azur méditerranéen. J'ai dit aussi les ruines de la chapelle. Les anciens communs, W, adossés au parapet entre B et B', avaient été transformés en écuries et cuisines. Je viens de décrire ici toute la partie avancée du château d'Hercule. On ne pouvait pénétrer dans la seconde enceinte que par la poterne H, que Mrs. Arthur Rance appelait la tour du jardinier, et qui n'était en somme qu'un épais pavillon, défendu autrefois par la tour B', et par une autre tour, située en C, et qui avait entièrement disparu au moment de la construction du château neuf, C', C'. Un fossé et un mur partaient alors de B' pour aboutir en I à la tour de Charles le Téméraire, avançant en C en forme d'éperon, au milieu de la baille, et barrant entièrement toute la première cour qu'il fermait. Le fossé existait toujours, large et profond, mais le mur avait été supprimé sur toute la longueur du château neuf et remplacé par le mur du château lui-même. Une porte centrale en D, maintenant condamnée, s'ouvrait sur un pont qui avait été jeté sur le fossé et qui permettait autrefois les communications directes avec la baille. Or, ce pont volant avait été démoli ou s'était effondré, et comme les fenêtres du château, très élevées au-dessus du fossé, étaient encore garnies de leurs épais barreaux de fer, on pouvait prétendre en toute vérité que la seconde cour était restée aussi impénétrable que lorsqu'elle était entièrement défendue par son mur d'enceinte au moment où le château neuf n'existait pas. Le sol de cette seconde cour, de la cour de Charles le Téméraire, comme les anciens guides du pays l'appelaient encore, était un peu plus élevé que le niveau de la première. Le roc formait là une assise plus haute, naturel piédestal de cette colonne colossale, prodigieuse et noire, de ce vieux château tout carré, tout droit, d'un seul bloc, allongeant son ombre formidable sur le flot clair. On ne pénétrait dans le vieux château F que par une petite porte K. Les anciens du pays ne l'appelaient jamais autrement que la tour carrée, pour la distinguer de la tour ronde dite de Charles Ier le Téméraire. Un parapet, semblable à celui qui fermait la première cour, reliait entre elles les tours B, second, F et L, fermant également la seconde. Nous avons dit que la tour ronde avait été autrefois rasée à mi-hauteur, remaniée et refaite par Amortola sur les plans de Charles le Téméraire lui-même, à qui il avait rendu quelques services dans la guerre helvétique. Cette tour avait 15 toises de diamètre extérieurement et se composait d'une batterie basse dont le sol était placé à une toise en contrebas du niveau supérieur du plateau. On descendait dans cette batterie basse par une pente, aboutissant à une salle octogone dont les voûtes portaient sur 4 gros piliers cylindriques. Sur cette chambre s'ouvraient 3 énormes embrasures pour 3 gros canons. C'est de cette salle octogone que Miss Edith eut voulu faire une vaste salle à manger, car si elle était admirablement fraîche à cause de l'épaisseur des murs, qui était formidable, la lumière du rocher et l'éblouissante clarté de la mer pouvaient y pénétrer à volonté par ces embrasures meurtrières qui avaient été agrandies en carré et formaient maintenant des fenêtres garnies, elles aussi, de puissants barreaux de fer. Cette tour, elle, dont l'oncle de Miss Edith s'était emparé pour y travailler et y caser ses nouvelles collections, avait un terre-plein merveilleux où la châtelaine avait fait transporter de la terre arable, des plantes et des fleurs, où elle avait ainsi créé le plus étonnant jardin suspendu qui se pût rêver. Une cabane, tout habillée de feuilles sèches de palmiers, formait là un heureux abri. J'ai marqué sur le plan d'une teinte grise tous les bâtiments ou parties de bâtiments qui avaient été par les soins de Mrs. Edith disposés, agencés et restaurés pour l'habitation immédiate. Mistress. Du château du XVIIe siècle, dit château neuf, on avait réparé en C' au premier étage que 2 chambres et un petit salon pour les hôtes de passage. C'est là que Rouletabille et moi devions coucher. Quant à M. et Mme Robert Darzac, ils habitaient dans la tour carrée, dont nous aurons à parler d'une façon plus particulière. 2 pièces au rez-de-chaussée de cette tour carrée restaient réservées au vieux Bob qui couchait là. M. Stangerson habitait au premier étage de la Louve, au-dessous du ménage Rance. Mrs. Edith, Mistress Edith, voulut nous montrer elle-même nos chambres. Elle nous fit traverser les salles, aux plafonds effondrés, aux parquets défoncés, aux murs moisis. Mais de ci, de là, quelques lambris, un trumeau, une peinture écaillée, une tapisserie en loques, attestaient l'ancienne splendeur du château neuf, né de la fantaisie d'Amortola du grand siècle. En revanche, nos petites chambres ne rappelaient en rien ce passé magnifique. Elles en avaient été nettoyées avec un soin qui me toucha, propres et hygiéniques, sans tapis, badigeonnées, laquées de clair, meublées sommairement à la moderne, elles nous plurent beaucoup. J'ai dit que nos 2 chambres étaient séparées par un petit salon. Comme je faisais le nœud de ma cravate, j'appelai Rouletabille, lui demandant s'il était prêt. Je n'obtins aucune réponse. J'allais dans sa chambre et je constatai avec surprise qu'il en était déjà parti. Je me mis à sa fenêtre qui donnait comme les miennes sur la tour de Charles le Téméraire. Cette cour était vide, habitée seulement par son grand eucalyptus dont à cette heure l'odeur forte montait jusqu'à moi. Au-dessus du parapet du boulevard, j'apercevais l'immense étendue des eaux silencieuses. La mer était devenue d'un bleu un peu sombre à la tombée du soir, et les ombres de la nuit étaient visibles à l'horizon de la côte italienne, s'accrochant déjà à la pointe d'Ospedaletti. Aucun bruit, aucun frisson sur la terre et dans les cieux. Je n'avais observé encore un pareil silence et une pareille immobilité de la nature qu'à la minute qui précède les plus violents orages et le déchaînement de la foudre. Cependant, nous n'avions rien de tel à craindre, et la nuit s'annonçait décidément sereine. Mais quelle est cette ombre apparue? D'où vient ce spectre qui glisse sur les eaux? Debout, à l'avant d'une petite barque d'un pêcheur, fait avancer au rythme lent de ses deux rames, j'ai reconnu la silhouette de Larsan. Oh, qui s'y tromperait? Qui tenterait de s'y tromper? Ah, il n'est que trop reconnaissable. Et si ceux devant lesquels il vient ce soir étaient disposés à douter que ce fût lui, il met une si menaçante coquetterie à s'exhiber dans toute sa figure d'autrefois qu'il ne les renseignerait pas davantage en leur criant « C'est moi !» Oh oui, c'est lui, c'est lui, c'est le grand Fred. La barque silencieuse, avec sa stature immobile, fait le tour du château fort. Elle passe maintenant sous les fenêtres de la tour carrée, et puis elle dirige sa proue du côté de la pointe de Garibaldi vers les carrières des Rochers Rouges. Et l'homme est toujours debout, les bras croisés, la tête tournée vers la tour, apparition diabolique au seuil de la nuit qui, lente et sournoise, s'approche de lui par derrière, l'enveloppe de sa gaze légère et l'emporte. Maintenant, en baissant les yeux, j'aperçois deux ombres dans la cour du Téméraire. Elles sont au coin du parapet auprès de la petite porte de la tour carrée. L'une de ces ombres, la plus grande, retient l'autre et supplie. La plus petite voudrait s'échapper. On dirait qu'elle est prête à prendre son élan vers la mer. Et j'entends la voix de Madame Darzac qui dit « Prenez garde, c'est un piège qu'il vous tend. Je vous défends de me quitter ce soir. » Et la voix de Rouletabille « Il faudra bien qu'il aborde au rivage. Allez, laissez-moi courir au rivage. Mais que ferez-vous ? Gémit la voix de Mathilde. Tout ce qu'il faudra. » Et encore la voix de Mathilde, la voix épouvantée. Mais je vous défends de toucher à cet homme. Et je n'entends plus rien. Je suis descendu et j'ai trouvé Rouletabille seul, assis sur la margelle du puits. Je lui ai parlé, il ne m'a pas répondu, comme il lui arrive quelquefois. Je m'en fus dans la baille, et là, je rencontrai M. Darzac, qui vint à moi fort agité. Il me cria de loin, « Eh bien, vous l'avez vu ?»« Oui, je l'ai vu, » fis-je. « Et elle, savez-vous si elle l'a vu ?»« Elle l'a vu, elle était avec Rouletabille quand il est passé. Quelle audace !» Robert Darzac en tremblait encore de l'avoir vu. Il me dit qu'aussitôt qu'il l'avait aperçu, il avait couru comme un fou au rivage, mais qu'il n'était pas arrivé à temps à la pointe de Garibaldi, et que la barque avait disparu comme par enchantement. Mais déjà, Robert Darzac me quittait, courant rejoindre Mathilde, anxieux de l'état d'esprit dans lequel il allait la retrouver. Cependant, il revenait presque aussitôt, triste et abattu. La porte de son appartement était fermée. Sa femme désirait être seule un instant. « Et Rouletabille ?» demandai-je. « Je ne l'ai pas vu. » Nous restâmes ensemble sur le parapet à regarder la nuit qui avait emporté Larsan. Robert Darzac était infiniment triste. Pour détourner le cours de ses pensées, je lui posai quelques questions sur le ménage Hans, auxquelles il finit par répondre. C'est ainsi que, peu à peu, je devais apprendre comment, après le procès de Versailles, Arthur Hans s'était retourné à Philadelphie et comment, un beau soir, il s'était trouvé dans un banquet de famille à côté d'une jeune personne romanesque qu'il avait séduite immédiatement par un tour d'esprit littéraire qu'il avait rarement rencontré chez ses belles compatriotes. Elle n'avait rien de ce type alerte, désinvolte, indépendant et audacieux qui devait aboutir la Fluffy Ruffles si en honneur de nos jours. Un peu dédaigneuse, douce et mélancolique, d'une pâleur intéressante, elle eût plutôt rappelé les tendres héroïnes de Walter Scott, lequel était du reste, paraît-il, son auteur favori. Ah, certes, elle retardait, mais elle retardait d'une façon délicieuse. Comment cette figure délicate parvint-elle à impressionner si vivement Arthur Rance, qui avait tant aimé la majestueuse Mathilde? Ce sont là les secrets du cœur. Toujours est-il que, se sentant devenir amoureux, Arthur Hans en avait profité ce soir-là pour se griser abominablement. Il dut commettre quelque inélégante bêtise, laisser échapper à un propos si incorrect que Miss Edith le pria soudain et à haute voix de ne plus lui adresser la parole. Le lendemain, Arthur Rand faisait faire officiellement ses excuses à Miss Edith et jurait qu'il ne boirait plus que de l'eau. Il devait tenir ce serment. Arthur Rand connaissait de longue date l'oncle, ce vieux brave homme de Munder, le vieux Bob, comme on l'appelait surnommé à l'université, un type extraordinaire qui était aussi célèbre par ses aventures d'explorateur que par ses découvertes de géologue. Il était doux comme un mouton, mais n'avait pas son pareil pour chasser le tigre des pampas. Il avait passé la moitié de son existence de professeur au sud du Rio Negro, chez les Patagons, à la recherche de l'homme tertiaire, ou tout au moins de son squelette, non point de l'anthropopithèque ou de quelque autre pinecanthropus, se rapprochant plus ou moins du singe, mais bien de l'homme, plus fort, plus puissant que celui qui habite de nos jours la planète de l'homme, enfin, contemporain des prodigieux mammifères qui sont apparus sur le globe avant l'époque quaternaire. Il revenait généralement de ses expéditions avec quelques caisses de cailloux et un bagage respectable de tibias et de fémurs, sur lesquels le monde savant bataillait, mais aussi avec une riche collection de peaux de lapin, comme il disait, qui attestait que le vieux savant à lunettes savait encore se servir d'armes moins préhistoriques que la hache en silex ou le perçoir du troglodyte. Aussitôt de retour à Philadelphie, il reprenait possession de sa chaire, se courbait sur ses bouquins, sur ses cahiers, et, maniaque comme un rond de cuir, dictait son cours, s'amusant à faire sauter dans les yeux de ses plus proches élèves les copeaux de ses longs crayons dont il ne se servait jamais mais qu'il taillait interminablement. Et quand il avait atteint son but, qu'il visait, on voyait apparaître au-dessus de son pupitre sa bonne tête chenue que fendait sous les lunettes d'or le large rire silencieux de sa bouche joviale. Tous ces détails me furent donnés plus tard par Arthur Hans lui-même, qui avait été l'élève du vieux Bob, mais qui ne l'avait pas revu depuis nombreuses années, quand il fit la connaissance de Miss Edith. Et si je les rapporte si complètement ici, c'est que, par une suite de circonstances fort naturelles, nous allons retrouver le vieux Bob au Rocher Rouge. Miss Edith, lors de la fameuse soirée où Arthur Rance lui fut présenté et où il se conduisit d'une façon aussi incohérente, ne s'était montrée peut-être si mélancolique parce qu'elle venait de recevoir de fâcheuses nouvelles de son oncle. Celui-ci, depuis 4 ans, ne se décidait pas à revenir de chez les Patagons. Dans sa dernière lettre, il lui disait qu'il était bien malade et qu'il désespérait de la revoir avant de mourir. On pourrait être tenté de penser qu'une nièce au cœur tendre dans ces conditions eût pu s'abstenir de paraître à un banquet, si familial fut-il, mais Miss Edith, au cours des voyages de son oncle, avait tant reçu de fâcheuses nouvelles, et son oncle était revenu de si loin, toujours si bien portant, qu'on ne lui tiendra certainement point rigueur de ce que sa tristesse ne l'eût point ce soir-là retenu à la maison. Cependant, 3 mois plus tard, sur une nouvelle lettre, elle décida de partir et d'aller rejoindre toute seule son oncle au fond de l'Araucanie. Pendant ces 3 mois, il s'était passé des événements mémorables. Miss Edith avait été touchée des remords d'Arthur Rance et de sa persistance à ne plus boire que de l'eau. Elle avait appris que les mauvaises habitudes d'intempérance de ce gentleman n'avaient été prises qu'à la suite d'un désespoir d'amour, et cette circonstance lui avait plu par-dessus tout. Ce caractère romanesque dont j'ai parlé tout à l'heure devait servir rapidement les desseins d'Arthur Rance, et au moment du départ de Miss Edith pour l'Araucanie, nul ne s'étonna de ce que l'ancien élève du vieux Bob accompagna sa nièce. Si les fiançailles n'étaient pas encore officielles, c'est qu'elle n'attendait pour le devenir que la bénédiction du géologue. Miss Edith et Arthur Rance retrouvèrent à San Luis l'excellent oncle. Il était d'une humeur charmante et d'une santé florissante. Rance, qui ne l'avait pas revu depuis si longtemps, eut le toupet de lui dire qu'il avait rajeuni, ce qui est le plus habile des compliments. Aussi, quand sa nièce lui eut appris qu'elle s'était fiancée à ce charmant garçon, la joie de l'oncle fut remarquable. Tous 3 revinrent à Philadelphie, où le mariage fut célébré. Miss Edith ne connaissait pas la France. Arthur Rance décida d'y faire leur voyage de noces. Et c'est ainsi qu'ils trouvèrent, comme il se racontait tout à l'heure, une occasion scientifique de se fixer aux environs de Menton, non point en France, mais à 100 mètres de la frontière, en Italie, devant les Rochers Rouges. La cloche ayant retenti et Arthur Rance étant venu au-devant de nous, nous nous dirigeâmes vers la Louve dans la salle basse de laquelle, ce soir-là, était servi le dîner. Quand nous y fûmes tous réunis, moins le vieux Bob absent du fort d'Hercule, Mistress Edith nous demanda si quelqu'un de nous avait aperçu une petite barque qui avait fait le tour du château et dans laquelle se trouvait un homme debout. L'attitude singulière de cet homme l'avait frappé. Comme personne ne lui répondit, elle reprit « Oh, je saurais qui c'est, car je connais le marin qui conduisait la barque. C'est un grand ami du vieux Bob. » « Vraiment ?» fit Rouletabille. « Vous connaissez ce marin, madame ?»« Il vient quelquefois au château. Il vient vendre du poisson. Les gens du pays lui ont donné un nom bizarre que je ne saurais vous répéter dans l'impossible patois, mais je me suis fait traduire. Cela veut dire « le bourreau de la mer ». Un bien joli nom, n'est-ce pas ?» Chapitre 7 De quelques précautions qui furent prises par Joseph Rouletabille pour défendre le fort d'Hercule contre une attaque ennemie. Rouletabille n'eut même point la politesse de demander l'explication de cet étonnant sobriquet. Il paraissait abîmé dans les plus sombres réflexions. Ah, drôle de dîner, drôle de château, drôle de gens. Les grâces languissantes de Mistress Edith ne suffirent point à nous galvaniser. Il y avait là 2 nouveaux ménages, 4 amoureux qui auraient dû être la gaieté de l'heure et rayonner de la joie de vivre, mais le repas fut des plus tristes. Le spectre de l'arçan planait sur les convives, même sur celui d'entre nous qui ne le savait point si proche. Il est juste de dire du reste que le professeur Stangerson, depuis qu'il avait appris la cruelle, la douloureuse vérité, ne pouvait se débarrasser de ce spectre-là. Je ne crois point m'avancer beaucoup en prétendant que la première victime du drame du glandier et la plus malheureuse de toutes était le professeur Stangerson. Il avait tout perdu, sa foi dans la science, l'amour du travail et, ruine plus affreuse que toutes les autres, la religion de sa fille. Il avait tant cru en elle, elle avait été pour lui l'objet d'un si constant orgueil. Il l'avait associée pendant tant d'années, vierge sublime, à sa recherche de l'inconnu. Il avait été si merveilleusement ébloui de cette définitive volonté qu'elle avait eu de refuser sa beauté à quiconque eût pu l'éloigner de son père et de la science. Et quand il était encore à considérer avec extase un pareil sacrifice, il apprenait que si sa fille refusait de se marier, c'est qu'elle l'était déjà un Ballmeyer. Le jour où Mathilde avait décidé de tout avouer à son père, et de lui confesser un passé qui devait, aux yeux du professeur déjà averti par le mystère du glandier, éclairer le présent d'un éclat bien tragique, le jour où, tombant à ses pieds et embrassant ses genoux, elle lui avait raconté le drame de son cœur et de sa jeunesse, le professeur Stangerson avait serré dans ses bras tremblants son enfant chéri. Il avait déposé le baiser du pardon sur sa tête adorée. Il avait mêlé ses larmes aux sanglots de celle qui avait expié sa faute jusque dans la folie. Et il lui avait juré qu'elle ne lui avait jamais été plus précieuse que depuis qu'il savait ce qu'elle avait tant souffert. Et elle s'en était allée un peu consolée. Mais lui, resté seul, se releva un autre homme. Un homme seul, tout seul, l'homme seul. Le professeur Stangerson avait perdu sa fille et ses dieux. Il l'avait vue avec indifférence se marier à Robert Darzac, qui avait été cependant son élève le plus cher. En vain Mathilde s'efforçait-elle de réchauffer son père d'une tendresse plus ardente. Elle sentait bien qu'il ne lui appartenait plus, que son regard se détournait d'elle, que ses yeux vagues fixaient dans le passé une image qui n'était plus la sienne, mais qu'il avait été, hélas, et que, s'il revenait à elle, Madame Darzac, c'était pour apercevoir à ses côtés non point la figure respectée d'un honnête homme, mais la silhouette éternellement vivante, éternellement infâme de l'autre, de celui qui avait été le premier mari, de celui qui lui avait volé sa fille. Il ne travaillait plus. Le grand secret de la dissociation de la matière qui s'était promis d'apporter aux hommes retournerait au néant d'où un instant il l'avait tiré, et les hommes iraient, répétant pendant des siècles encore la parole imbécile « ex nihilo nihil ». Rien. À partir de rien. Le repas était rendu plus lugubre encore par le cadre dans lequel il nous était servi, cadre sombre éclairé d'une lampe gothique de vieux candélabres de fer forgé, entre des murs de forteresse garnis de tapisseries d'Orient, et contre lesquels s'appuyaient de vieilles armoires datant de la première invasion sarrasine, et des sièges à la Dagobert. À tour de rôle, j'examinais les convives, et ainsi m'apparaissaient les causes particulières de la tristesse générale. Monsieur et Madame Robert Darzac étaient à côté l'un de l'autre. La maîtresse de séance n'avait évidemment point voulu séparer les époux aussi neufs, dont l'union ne datait que de l'avant-veille. Des deux, je dois dire que le plus désolé était sans contredit notre ami Robert. il ne prononçait pas une parole. Madame Darzac, elle, se mêlait encore à la conversation, échangeait quelques réflexions banales avec Arthur Rance. Devrais-je ajouter même à ce propos qu'après la scène à laquelle j'avais assisté du haut de ma fenêtre entre Rouletabille et Mathilde, je m'attendais à voir celle-ci plus atterrée et quasi anéantie par cette vision menaçante d'un larcin surgi des eaux. Mais non, bien au contraire, je constatais une remarquable différence entre l'aspect effaré sous lequel elle nous était apparue précédemment, à la gare, par exemple, et celui-ci qui était presque entièrement de sang-froid. On eût dit que cette apparition l'avait plutôt soulagée, et quand je fis part dans la soirée de cette réflexion à Rouletabille, le jeune reporter fut de mon avis et m'expliqua cette apparente anomalie de la façon la plus simple. Mathilde ne devait rien tant redouter que de redevenir folle, et la certitude cruelle où elle était maintenant de ne pas avoir été victime de l'hallucination de son cerveau troublé avait certainement servi à lui rendre un peu de calme. Elle préférait encore avoir à se défendre de l'arsan vivant que de son fantôme. Dans la première entrevue qu'elle avait eue avec Rouletabille dans la tour carrée pendant que j'achevais ma toilette, elle avait du reste semblé à mon jeune ami tout à fait hantée par cette idée qu'elle redevenait folle. Rouletabille me racontant cette entrevue, m'avoua qu'il n'avait pu lui rendre quelque tranquillité qu'en prenant le contre-pied de tout ce qu'avait fait Robert Darzac, c'est-à-dire en ne lui cachant point que ses yeux avaient bien vu clair et vu Frédéric Larsan. Quand elle sut que Robert Darzac ne lui avait dissimulé cette réalité que par la crainte qu'elle n'en fût épouvantée, et qu'il avait été le premier à télégraphier à Rouletabille de venir à leur secours, elle avait poussé un soupir qui ressemblait à s'y méprendre un sanglot. Elle avait pris les mains de Rouletabille et les avait soudain couvertes de baisers, comme une mère fait dans un accès de gloutonnerie adorable aux mains de son tout petit enfant. Évidemment, elle était instinctivement reconnaissante au jeune homme vers lequel elle se sentait irrésistiblement portée par toutes les forces mystérieuses de son être maternel, de ce qu'il repoussait d'un mot la folie qui rôdait toujours autour d'elle et qui de temps en temps revenait frapper à sa porte. C'est dans ce moment qu'ils avaient aperçu tous deux en même temps, par la fenêtre de la tour, Frédéric Larsan debout dans sa barque. Il l'avait d'abord regardé avec stupeur, immobiles et muets. Puis un cri de rage s'était échappé de la gorge angoissée de Rouletabille, et celui-ci avait voulu se précipiter, courir sus à l'homme. Nous avons vu comment Mathilde l'avait retenu, s'accrochant à lui jusque sur le parapet. Évidemment, c'était horrible, cette résurrection naturelle de Larsan, mais moins horrible que la résurrection continuelle et surnaturelle d'une Larsan qui n'existerait que dans son cerveau malade. Elle ne voyait plus Larsan partout. Elle le voyait où il était. À la fois nerveuse et douce, tantôt patiente et par instants impatiente, Mathilde, tout en répondant à Arthur Rance, prenait de M. Darzac les soins les plus charmants, les plus tendres. Elle était pleine d'attention, le servant elle-même, avec un admirable et sérieux sourire, veillant à ce qu'il n'eût point la vue fatiguée par l'approche trop brusque d'une lumière. Robert la remerciait et semblait, je dois bien le constater, affreusement malheureux. Et j'étais bien obligé de me rappeler que le malencontreux Larsan était arrivé à temps pour rappeler à Madame Darzac qu'avant d'être Madame Darzac, elle était Madame Jean-Roussel Balmeyer Larsan devant Dieu et même au regard de certaines lois transatlantique devant les hommes. Si le but de Larsan avait été, en se montrant, de porter un coup affreux à un bonheur qui n'était encore qu'en expectative, il avait pleinement réussi. Et peut-être, en historien exact de l'événement, devons-nous appuyer sur ce fait moral grandement à l'honneur de Mathilde, que ce n'est point seulement l'état de désarroi où se trouvait son esprit à la suite de la réapparition de Larsan qui l'incita à faire comprendre à Robert Larzac, le premier soir où ils se trouvèrent face à face, enfin seuls, dans l'appartement de la Tour Carrée, que cet appartement était assez vaste pour y loger séparément leurs deux désespoirs. Mais ce fut encore le sentiment du devoir, c'est-à-dire de ce qu'ils se devraient chacun à tour d'eux, qui leur dicta la plus noble et la plus auguste des décisions. J'ai déjà dit que Mathilde Stangerson avait été très religieusement élevée, non point par son père, qui était assez indifférent sur ce chapitre, mais par les femmes et surtout par sa vieille tante de Cincinnati. Les études auxquelles elle s'était livrée par la suite aux côtés du professeur n'avaient en rien ébranlé sa foi, et le professeur s'était bien gardé d'influencer en quoi que ce fût, à ce propos, l'esprit de sa fille. Celle-ci avait conservé, même au moment le plus redoutable de la création du néant, théorie sortie du cerveau de son père, ainsi que celle de la dissociation de la matière, la foi des Pasteur et des Newton. Et elle disait couramment que, s'il était prouvé que tout venait de rien, c'est-à-dire de l'éther impondérable, et retournait à ce rien, pour en ressortir éternellement grâce à un système qui se rapprochait d'une façon singulière des fameux atomes crochus des anciens, il restait à prouver que ce rien, origine de tout, n'avait pas été créé par Dieu. Et en bonne catholique, ce Dieu, évidemment, était le sien, le seul qui eut son vicaire ici-bas, appelé pape. J'aurais peut-être passé sous silence les théories religieuses de Mathilde s'il n'avait été d'un appoint certain dans les résolutions qu'elle eut à prendre vis-à-vis de son nouvel époux devant les hommes, quand il lui fut révélé que son mari devant Dieu était encore en ce monde. La mort de Larsan ayant paru certaine, elle était allée à une nouvelle bénédiction nuptiale avec l'assentiment de son confesseur en veuve. Et voilà qu'elle n'était plus veuve, mais bigame devant Dieu. Au surplus, une telle catastrophe n'était point irrémédiable, et elle dut elle-même faire luire aux yeux attristés de ce pauvre monsieur Darzac la perspective d'un sort meilleur qui serait arrangé comme il convient par la cour de Rome, à laquelle, le plus vite possible, il faudrait un continent soumettre le litige. Bref, en conclusion de tout ce qui précède, M. et Mme Robert Darzac, 48 heures après leur mariage à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, faisaient chambre à part au fond de la Tour Carrée. Le lecteur comprendra alors qu'il n'en fallait peut-être point davantage pour expliquer l'irrémédiable mélancolie de Robert et les soins consolateurs de Mathilde. Sans être précisément au courant ce soir-là de tous ces détails, j'en soupçonnais néanmoins le plus important. De monsieur et de madame de Larzac, des yeux s'en furent au voisin de celle-ci, monsieur Arthur William Rance, et ma pensée déjà s'emparait d'un nouveau sujet d'observation lorsque le maître d'hôtel vint nous annoncer que le concierge Bernier demandait à parler tout de suite à Rouletabille. Celui-ci se leva aussitôt, s'excusa et sortit. « Tiens, fis-je, les Berniers ne sont donc plus aux Glandiers ?» On se rappelle en effet que ces Berniers, l'homme et la femme, étaient les concierges de M. Stangerson à Sainte-Geneviève-des-Bois. J'ai raconté dans « Le mystère de la chambre jaune » comment Rouletabille les avait fait remettre en liberté alors qu'ils étaient accusés de complicité dans l'attentat du pavillon de la Chenée. Leur reconnaissance pour le jeune reporter à cette occasion avait été des plus grandes, et Rouletabille avait pu dès lors faire état de leur dévouement. M. Stangerson répondit à mon interpellation en m'apprenant que tous ses domestiques avaient quitté le glandier, qu'il avait à jamais abandonné. Et comme l'errance avait besoin de concierges pour le fort d'Hercule, le professeur avait été heureux de leur céder ses loyaux serviteurs dont il n'avait jamais eu à se plaindre en dehors d'une petite histoire de braconnage qui avait failli tourner si mal pour eux. Et maintenant, ils logeaient dans l'une des tours de la poterne d'entrée dont ils avaient fait l'horloge et d'où ils surveillaient le mouvement d'entrée et de sortie du fort d'Hercule. Rouletabille n'avait pas paru le moins du monde étonné quand le maître d'hôtel lui avait annoncé que Bernier désirait lui dire un mot. C'était donc, pensais-je, qu'il était déjà au fait de leur présence au Rocher Rouge. En somme, je découvrais, sans en être stupéfait du reste, que Rouletabille avait sérieusement employé les quelques minutes pendant lesquelles je le croyais dans sa chambre et que j'avais consacré, moi, à ma toilette ou à d'inutiles bavardages avec M. Darzac. Ce départ inattendu de Rouletabille jeta un froid. Chacun se demandait si cette absence ne coïncidait point avec quelque événement important relatif au retour de Larsan. Madame Robert Darzac était inquiète. Et parce que Mathilde se montrait fâcheusement impressionnée, je vis bien que M. Arthur Rance crut bon de manifester lui aussi indiscret et moi. Ici, il est bon de dire que M. Arthur Rance et sa femme n'étaient point au courant de tous les malheurs de la fille du professeur Stangerson. On avait naturellement jugé inutile de leur faire part du mariage secret de Mathilde de Jean Roussel, devenu Larsan. C'était là un secret de famille. Mais il savait mieux que n'importe qui, Arthur Rance, pour avoir été mêlé au drame du glandier et sa femme, parce que son mari le lui avait raconté, avec quel acharnement le célèbre agent de la sûreté avait poursuivi celle qui devait être un jour Madame Larzac. Les crimes de Larsan s'expliquaient naturellement aux yeux d'Arthur Rance par une passion désordonnée. Et il ne faut point s'étonner qu'un homme qui avait été si longtemps épris de Mathilde que le phrénologue américain n'eût point cherché à l'attitude de Larsan d'autre explication que celle d'un amour furieux et sans espoir. Quant à Mistress Edith, je me rendis bientôt parfaitement compte que les raisons du drame du glandier ne lui semblait point aussi simple que voulait bien le dire son mari. Pour qu'elle pensât comme celui-ci, il eut fallu qu'elle éprouvât pour Mathilde un enthousiasme approchant de celui d'Arthur Rance, et bien au contraire, toute son attitude que j'observais à loisir, sans qu'elle s'en doutât, disait « Mais enfin, qu'est donc cette femme de si étonnant pour avoir inspiré des sentiments aussi chevaleresques, aussi criminels à des cœurs d'hommes pendant de si longues années. Et quoi, la voilà donc, cette femme, pour laquelle policiers ont tué, pour laquelle sobres on s'enivre, et pour laquelle on se fait condamner innocent? Mais qu'a-t-elle de plus que moi, qui n'ai su que me faire patemment épouser par un mari que je n'aurais jamais eu si elle ne me l'avait pas repoussé. Mais oui, qu'a-t-elle? Elle n'a même plus la jeunesse. Et cependant, mon mari m'oublie pour la regarder encore. » Voilà ce que je lus dans les yeux de Mistress Edith, qui regardait son mari, regardait Mathilde. Ah, les yeux noirs de la douce, de la langoureuse Mistress Edith! Je me félicite de ces présentations nécessaires que je viens de faire au lecteur. Il est bon qu'il sache les sentiments qui habitent le cœur de chacun dans le moment que chacun va avoir un rôle à jouer dans l'étrange et inouï drame qui se prépare dans l'ombre qui enveloppe le fort d'Hercule. Et encore, je n'ai rien dit du vieux Bob ni du prince Galitch, mais leur tour n'en doutez point viendra. C'est que j'ai pris comme règle, dans une affaire aussi considérable, de ne peindre choses et gens qu'au fur et à mesure de leur apparition au cours des événements. Ainsi, le lecteur passera par toutes les alternatives que quelques-uns de nous ont connues d'angoisse et de paix, de mystère et de clarté, d'incompréhension et de compréhension. Tant mieux si la lumière définitive se fait dans l'esprit du lecteur avant l'heure où elle m'est apparue. Comme il disposera ni plus ni moins des mêmes moyens que nous pour voir clair, il se sera prouvé à lui-même qu'il jouit d'un cerveau digne du crâne de Rouletabille. Nous achevâmes ce premier repas sans avoir revu notre jeune ami, et nous nous levâmes de table sans nous communiquer le fond de notre pensée, qui était des plus troubles. Mathilde s'enquit immédiatement de Rouletabille quand elle fut sortie de la louve et je l'accompagnai jusqu'à l'entrée du fort. Monsieur Darzac et Mistress Edith nous suivaient. Monsieur Stangerson avait pris congé de nous. Arthur Rance, qui avait un instant disparu, va nous rejoindre comme nous arrivions sous la voûte. La nuit était claire, tout illuminée de lune. Cependant, on avait allumé des lanternes sous la voûte qui retentissaient de grands coups sourds. Et nous entendîmes la voix de Rouletabille qui encourageait ce qui l'entourait. « Allons, encore un effort !» disait-il. Et des voix, après la sienne, se mettaient à haleter comme font les marins qui halent les barques sur la jetée à l'entrée des ports. Enfin, un grand tumulte nous emplit les oreilles. On se serait cru dans une cloche. C'étaient les deux vantaux de l'énorme porte de fer qui venaient de se rejoindre pour la première fois depuis plus de 100 ans. Mistress Edith s'étonna de cette manœuvre de la dernière heure et demanda ce qu'était devenue la grille qui faisait jusqu'alors fonction de porte. Mais Arthur Rance lui saisit le bras et elle comprit qu'elle n'avait qu'à se taire, ce qui ne l'empêcha point de murmurer « Mais vraiment, ne dirait-on pas que nous allons subir un assaut, un siège ?» Mais Rouletabille entraînait déjà tout notre groupe dans la baille et nous annonçait en riant que si nous avions par hasard le désir d'aller faire un tour en ville, il fallait pour ce soir-là y renoncer, attendu que ses ordres étaient donnés et que nul ne pouvait plus sortir du château ni y entrer. « Le père Jacques, ajouta-t-il, toujours en affectant de plaisanter, était chargé par lui d'exécuter la consigne, et chacun savait qu'il était impossible de séduire ce vieux serviteur. C'est ainsi que j'appris que le père Jacques, que j'avais connu au Glandier, avait accompagné le professeur Stangerson à qui il servait de valet de chambre. La veille, il avait couché dans un petit cabinet de la louve, attenant à la chambre de son maître, mais Rouletabille avait changé tout cela, et c'était le père Jacques maintenant qui avait pris la place des concierges dans la tour A. Mais où sont les Bernier ? Demanda Mistress Edith intriguée. Ben, ils sont déjà installés dans la tour carrée, dans la chambre d'entrée à gauche. « Ils serviront de concierge à la tour carrée, » répondit Rouletabille. « Mais la tour carrée n'a pas besoin de concierge, » s'écria Mistress Edith dont l'ahurissement était sans bornes. C'est ce que nous ne savons pas, madame, répliqua le reporter sans explication. Mais il prit à part M. Arthur Rance et lui fit comprendre qu'il devait mettre sa femme au courant de la réapparition de Larsan. Si l'on prétendait cacher la vérité plus longtemps à M. Stangerson, on ne pouvait guère y parvenir sans l'aide intelligente de Mistress Edith. Enfin, il était bon que chacun désormais au fort d'Hercule fût préparé à tout, autrement dit, ne fût surpris par rien. Là-dessus, il nous fit traverser la baille et nous nous trouvâmes à la poterne du jardinier. J'ai dit que cette poterne, H, commandait l'entrée de la seconde cour. Mais il y avait beaucoup de temps qu'à cet endroit, le fossé avait été comblé. Autrefois, il y avait là un pont-levis. Rouletabille, à notre grande stupéfaction, déclara que le lendemain, il ferait dégager le fossé et rétablir le pont-levis. Dans le moment même, il s'occupait de faire fermer, par les gens du château, cette poterne par une sorte de porte de fortune, en attendant mieux, faite de planches et de vieux bahuts que on avait sorti de la bâtisse du jardinier. Ainsi le château se barricadait et Rouletabille était seul maintenant à en rire tout haut. Car Mistress Edith, mise rapidement au courant par son mari, ne disait plus rien, se contentant de s'amuser in petto prodigieusement de ses visiteurs qui transformaient son vieux château fort en place imprenable parce qu'il redoutait l'approche d'un homme, d'un seul homme. C'est que Mistress Edith ne connaissait point cet homme-là et qu'elle n'avait pas passé par le mystère de la chambre jaune. Quant aux autres, et Arthur Rance lui-même était de ceux-là, il trouvait tout naturel et absolument raisonnable que Rouletabille les fortifiât contre l'inconnu, contre le mystère, contre l'invisible, contre ce on ne savait quoi qui rôdait dans la nuit autour du fort d'Hercule. À cette poterne, Rouletabille n'avait placé personne, car il se réservait ce poste cette nuit-là pour lui-même. De là, il pouvait surveiller et la première et la seconde cour. C'était un point stratégique qui commandait tout le château. On ne pouvait parvenir du dehors jusqu'au Darzac qu'en passant d'abord par le père Jacques en A, par Rouletabille en H et par le ménage Bernier qui veillait sur la porte K de la tour carrée. Le jeune homme avait décidé que les veilleurs désignés ne se coucheraient pas. Comme nous passions près du puits de la cour du Téméraire, je vis à la clarté de la lune qu'on avait dérangé la planche circulaire qui le fermait. Je vis aussi, sur la margelle, un seau attaché à une corde. Rouletabille m'expliqua qu'il avait voulu savoir si ce vieux puits correspondait avec la mer et qu'il y avait puisé une eau absolument douce, preuve que cette eau n'avait aucune relation avec l'événement salé. Il fit quelques pas alors avec Madame Darzac, qui prit aussitôt congé de nous et entra dans la tour carrée. Monsieur Darzac, sur la prière de Rouletabille, resta avec nous, ainsi qu'Arthur Rance. Quelques phrases d'excuses à l'adresse de Mistress Edith firent comprendre à celle-ci qu'on la priait poliment de s'aller coucher, ce qu'elle fit d'une grâce assez nonchalante, et en saluant Rouletabille d'un ironique « Bonsoir, monsieur le capitaine !» Quand nous fûmes seuls entre hommes, Rouletabille nous entraîna vers la poterne dans la petite chambre du jardinier. C'était une pièce fort obscure, basse de plafond, et où l'on se trouvait merveilleusement blotti pour voir sans être vu. Là, Arthur Rance, Robert Darzac, Rouletabille et moi dans la nuit, sans même avoir allumé une lanterne, nous tâmes notre premier conseil de guerre. Ma foi, je ne saurais quel autre nom donner à cette réunion d'hommes effarés, réfugiés derrière les pierres de ce vieux château guerrier. Nous pouvons tranquillement délibérer ici, commença Rouletabille. Personne ne nous entendra et nous ne serons poursuivis par personne. Si l'on parvenait à franchir la première porte gardée par le père Jacques, sans qu'il s'en aperçût, nous serions immédiatement avertis par l'avant-poste que j'ai établi au milieu même de la baille, dissimulée dans les ruines de la chapelle. Oui, j'ai placé là votre jardinier, Mattoni, monsieur Hans. Je crois à ce qu'on m'a dit qu'on peut être sûr de cet homme. Dites-moi, je vous parle votre avis. J'écoutais Rouletabille avec admiration. Mistress Edith avait raison. C'était vrai qu'il s'improvisait à notre capitaine. Et voilà que d'emblée, il prenait toute disposition susceptible d'assurer la défense de la place. Certes, j'imagine qu'il n'avait point envie de la rendre à n'importe quel prix et qu'il était parfaitement disposé à se faire sauter en notre compagnie plutôt que de capituler. Le brave petit gouverneur de place que c'était là. Et en vérité, il fallait être tout à fait brave pour entreprendre de défendre le fort d'Hercule contre l'arçon, plus brave que s'il se fût agi de 1000 assiégeants, comme il arriva à l'un des comtes de la Mortola, qui n'eut pour débarrasser la place qu'à faire donner grosses pièces, couleuvrines et bombardes, et puis à charger l'ennemi déjà à moitié défait par le feu bien dirigé d'une artillerie qui était l'une des plus perfectionnées de l'époque. Mais là, aujourd'hui, qu'avions-nous à combattre ? Des ténèbres ? Où était l'ennemi ? Partout et nulle part. Nous ne pouvions ni viser, ne sachant où était le but, ni encore moins prendre l'offensive, ignorant où il fallait porter nos coups. Il ne nous restait qu'à nous garder, à nous enfermer, à veiller et à attendre. Monsieur Arthur Rance ayant déclaré à Rouletabille qu'il répondait de son jardinier Mattoni, notre jeune homme, sûr désormais d'être couvert de ce côté, prit son temps pour nous expliquer d'abord d'une façon générale la situation. Il alluma sa pipe, en tira 3 ou 4 bouffées rapides et dit « Voilà. Pouvons-nous espérer que l'arçon, après s'être montré si insolemment à nous, sous nos murs, comme pour nous braver, comme pour nous défier, s'en tiendra à cette manifestation platonique? Se contentera-t-il d'un succès moral qui aura porté le trouble, la terreur et le découragement dans une partie de la garnison? Et disparaîtra-t-il? Je ne le pense pas, à vrai dire. D'abord parce que ce n'est point dans son caractère essentiellement combatif et qu'il ne se satisfait pas avec des demi-succès. Ensuite parce que rien ne le force à disparaître. Songez qu'il peut tout contre nous, mais que nous ne pouvons rien contre lui, que nous défendre et frapper, si nous le pouvons, quand il le voudra bien. Nous n'avons en effet aucun secours à atteindre ou tendre du dehors. Et il le sait bien, c'est ce qu'il fait si audacieux et si tranquille. Qui pouvons-nous appeler à notre aide ? Mais le procureur ! Fit avec une certaine hésitation Arthur Rance, car il pensait bien que si cette hypothèse n'avait pas été encore envisagée par Rouletabille, c'est qu'il devait y avoir quelque obscure raison à cela. Rouletabille considéra son hôte avec un air de pitié qui n'était point non plus exempt de reproches, et il dit d'un ton glacé qui renseigna définitivement Arthur Rance sur la maladresse de sa proposition. « Mais vous devriez bien comprendre, monsieur, que je n'ai point à Versailles sauver Larsan de la justice française pour le livrer au Rocher Rouge à la justice italienne. Monsieur Arthur Rance, qui ignorait, comme je l'ai dit, le premier mariage de la fille du professeur Stangerson, ne pouvait mesurer, comme nous, toute l'impossibilité où nous étions de révéler l'existence de Larsan sans déchaîner, surtout depuis la cérémonie de Saint-Nicolas du Chardonnay, le pire des scandales et le plus redoutable des catastrophes. Mais certains incidents inexpliqués du procès de Versailles avaient dû suffisamment le frapper pour qu'il fût à même de saisir que nous redoutions par-dessus tout d'intéresser à nouveau le public à ce que l'on avait appelé le mystère de Mademoiselle Stangerson. Il comprit ce soir-là mieux que jamais que Larsan nous tenait par un de ces secrets terribles qui décident de l'honneur ou de la mort des gens en dehors de toutes les magistratures de la terre. Il s'inclina donc devant M. Robert Darzac sans plus dire un mot, mais ce salut signifiait de toute évidence que M. Arthur Rance était prêt à combattre pour la cause de Mathilde comme un noble chevalier qui s'inquiète peu des raisons de la bataille du moment qu'il meurt pour sa belle. Du moins, j'interprétais ainsi son geste, persuadé que l'Américain, malgré son récent mariage, était bien loin d'avoir oublié son ancienne passion. Monsieur Darzac dit « Il faut que cet homme disparaisse, mais en silence, soit qu'on le réduise à merci, soit qu'on passe avec lui un traité de paix, soit qu'on le tue. Mais la première condition de sa disparition est le secret de sa réapparition. Surtout, je me ferai l'interprète de Madame Darzac en vous priant de tout faire au monde pour que Monsieur Stangerson ignore que nous sommes menacés encore des coups de ce bandit. » Les désirs de Madame Darzac sont des ordres, répliqua Rouletabille. Monsieur Stangerson ne saura rien. On s'occupa ensuite de la situation faite aux domestiques et de ce qu'on pouvait attendre d'eux. Heureusement, le père Jacques et les Bernier étaient déjà à demi dans le secret des choses et ne s'étonneraient de rien. Matoni était assez dévoué pour obéir à Mistress Edith sans comprendre. Les autres ne comptaient pas. Bon, il y a bien encore Walter, le domestique du vieux Bob, mais il avait accompagné son maître à Paris et ne devait revenir qu'avec lui. Rouletabille se leva, échangea par la fenêtre un signe avec Bernier, qui se tenait debout sur le seuil de la tour carrée, et revint s'asseoir au milieu de nous. Larsan ne doit pas être loin, dit-il. Pendant le dîner, j'ai fait une reconnaissance autour de la place. Nous disposons, au-delà de la porte nord, d'une défense naturelle et sociale merveilleuse et qui remplace avantageusement l'ancienne barbacane du château. Nous avons là, 50 pas du côté de l'Occident, les deux postes frontières des douaniers français et italiens dont l'inexorable vigilance peut nous être d'un grand secours. Le père Bernier est tout à fait bien avec ces braves gens, et je suis allé avec lui les interroger. Le douanier italien ne parle que l'italien, mais le douanier français parle les deux langues, plus le jargon du pays, et c'est ce douanier, qui s'appelle, m'a dit Bernier, Michel, qui nous a servi de truchement général. Par son intermédiaire, nous avons appris que nos deux douaniers s'étaient intéressés à la manœuvre insolite autour de la presqu'île d'Hercule de la petite barque de Tullio, surnommée le bourreau de la mer. Le vieux Tullio est une des anciennes connaissances de nos douaniers. C'est le plus habile contrebandier de la côte. Il traînait ce soir dans sa barque un individu que les douaniers n'avaient jamais vu. La barque, Tullio et l'inconnu, ont disparu du côté de la pointe de Garibaldi. J'y suis allé avec le père Bernier, et pas plus que M. Darzac qui y était allé précédemment, nous n'avons rien aperçu. Cependant, Larsan a dû débarquer. J'en ai comme le pressentiment. Dans tous les cas, je suis sûr que la barque de Tullio a abordé près de la pointe de Garibaldi.
Vous en êtes sûr ?
S'écria M. Darzac. Mais à cause de quoi en êtes-vous sûr ? Demandai-je. Bon, fit le Rouletabille. Elle a laissé encore la trace de sa proue dans le galet du rivage. Et en abordant, elle a fait tomber de son bord le réchaud à pommes de pin que j'ai retrouvé et que les douaniers ont reconnu. Réchaud qui sert à Tullio à éclairer les eaux quand il pêche la pieuvre par les nuits calmes.
Mais Larsan est certainement descendu, reprit M. Darzac. Il est au Rocher Rouge.
Bon, en tout cas, si la barque l'a laissé au Rocher Rouge, il n'en est point revenu, fit Rouletabille. Les deux postes des douaniers sont placés sur le chemin étroit qui conduit des Rochers Rouges en France, de telle sorte que nul n'y peut passer de jour ou de nuit sans être aperçu. Vous savez d'autre part que les Rochers Rouges forment cul-de-sac et que le sentier s'arrête devant ces roches à 300 mètres environ de la frontière. Le sentier passe entre les rochers et la mer. Les rochers sont à pic et constituent une falaise d'une soixantaine de mètres de hauteur.
Mais certes, fit Arthur Hans, qui n'avait encore rien dit et qui semblait très intrigué, il a pu escalader la falaise.
Ben, il se sera caché dans les grottes, observa Darzac. Il y a dans la falaise des poches profondes.
Ben, je l'ai pensé, dit Rouletabille aussi, moi. Je suis retourné tout seul au Rocher Rouge après avoir envoyé le père Bernier.
Oh, c'était imprudent, remarquai-je.
Mais c'était par prudence, corrigea Rouletabille. J'avais des choses à dire à Larsan que je ne tenais point à faire savoir à un tiers. Bref, je suis retourné au Rocher Rouge. Et devant les grottes, j'ai appelé Larsan.
Vous l'avez appelé ? S'écria Arthur Rance.
Oui, je l'ai appelé dans la nuit commençante. J'ai agité mon mouchoir, comme font les parlementaires avec leur drapeau blanc. Mais est-ce qu'il ne m'a point entendu ? Est-ce qu'il n'a point vu mon drapeau ? Il n'a pas répondu.
Ben, il n'était peut-être plus là, jardai-je.
Ben, je n'en sais rien, j'ai entendu du bruit dans une grotte.
Et vous n'y êtes pas allé ? Demanda vivement Arthur Rance.
Non, répondit simplement Rouletabille.
Mais vous pensez bien, n'est-ce pas, que ce n'est point parce que j'ai peur de lui.
Mais courons-y, nous écriâmes-nous tous, en nous levant d'un même mouvement, et qu'on en finisse une bonne fois.
Je crois, dit Arthur Rance, que nous n'avons jamais eu une meilleure occasion de joindre Larsan, et nous ferons bien de lui ce que nous voudrons au fond des Rochers Rouges.
Darzac et Arthur Rance étaient déjà prêts. J'attendais ce qu'allait dire Rouletabille. D'un geste, il les calma et les pria de se rasseoir.
Il faut réfléchir à ceci, fit-il, que Larsan n'aurait pas agi autrement qu'il ne l'a fait s'il avait voulu nous attirer ce soir dans les grottes des Rochers Rouges. Il se montre à nous, il débarque presque sous nos yeux, à la pointe de Garibaldi. Il nous eut crié en passant sous nos fenêtres. « Vous savez, je suis au Rocher Rouge, je vous attends, venez-y » qui n'aurait peut-être pas été plus explicite ni plus éloquent.
« Mais vous êtes allé au Rocher Rouge, » repartit Arthur Rance, qui sa voix du reste profondément touchée par l'argument de Rouletabille. Et il ne s'est pas montré. Il s'y cache, méditant quelques crimes abominables pour cette nuit. Il faut le déloger de là.
Sans doute, répliqua Rouletabille, ma promenade au Rocher Rouge n'a produit aucun résultat parce que j'y suis allé seul. Mais que nous y allions tous et nous pourrons trouver un résultat à notre retour. À notre retour, interrogea Darzac, qui ne comprenait pas. Oui, expliqua Rouletabille, à notre retour au château, où nous aurons laissé Madame Darzac toute seule, et où nous ne la retrouverions peut-être plus. Oh, ajouta-t-il, dans le silence général, ce n'est là qu'une hypothèse. En ce moment, il nous est défendu de raisonner autrement que par hypothèse. Nous nous regardions tous et cette hypothèse nous accablait. Évidemment, sans Rouletabille, nous allions faire une grosse bêtise, nous allions peut-être à un désastre. Rouletabille s'était levé, pensif. Au fond, finit-il par dire, nous n'avions rien de mieux à faire pour cette nuit que de nous barricader. Oh, barricade provisoire, car je veux que la place soit mise en état de défense absolue dès demain. J'ai fait fermer la porte de fer et je la fais garder par le père Jacques. J'ai mis Mat Tony en sentinelle dans la chapelle. J'ai rétabli ici un barrage sous la poterne, le seul point vulnérable de la seconde enceinte, et je garderai moi-même ce barrage. Le père Bernier veillera toute la nuit à la porte de la tour carrée, et la mère Bernier, oh, qui a de très bons yeux, et à laquelle j'ai fait encore donner une lunette marine, restera jusqu'au matin sur la plateforme de la tour. Sinclair s'installera dans le petit pavillon de feuilles de palmier, sur la terrasse de la tour blonde. Du haut de cette terrasse, il surveillera avec moi du reste toute la seconde cour et les boulevards et parapets. Monsieur Arthur Rance et Monsieur Robert Darzac se rendront dans la baille et devront se promener jusqu'à l'aurore, le premier sur le boulevard de l'Ouest, le second sur celui de l'Est, boulevard qui borde la première cour du côté de la mer. Oh, le service sera dur cette nuit, parce que nous ne sommes pas encore organisés. Mais demain, nous dresserons un état de notre petite garnison et des domestiques sûrs dont nous pouvons disposer en toute sécurité. S'il y a des domestiques douteux, on les fera sortir de la place. Vous apporterez ici, dans cette poterne, en cachette, toutes les armes dont vous pouvez disposer, fusils, revolvers. On se les partagera suivant les besoins du service de garde. La consigne de tirer sur tout individu qui ne répond pas au « qui vive » et qui ne vient pas se faire reconnaître. Ni un point de mot de passe est inutile. Pour passer, il suffira de crier son nom et de faire voir son visage. Du reste, il n'y aura que nous qui aurons le droit de passer. Dès demain matin, je ferai dresser à l'entrée intérieure de la porte nord la grille qui fermait jusqu'à ce soir son entrée extérieure. Entrée qui est close désormais par la porte de fer. Et dans la journée, bon, les fournisseurs ne pourront franchir la voûte au-delà de la grille. Ils déposeront leurs marchandises dans la petite loge de la tour où j'ai gîté le père Jacques. À 7 heures, tous les soirs, la porte de fer sera fermée. Demain matin également, M. Arthur Rance donnera des ordres pour faire venir menuisiers, maçons et charpentiers. Tout ce monde sera compté et ne devra sous aucun prétexte franchir la poterne de la seconde enceinte. Tout ce monde sera également compté avant 7 heures du soir, heure à laquelle devra avoir lieu le départ des ouvriers au plus tard. Dans cette journée, les ouvriers devront entièrement achever leur travail, qui consistera à me fabriquer une porte pour ma poterne, à réparer une légère brèche du mur qui joint le château neuf à la tour du Téméraire et une autre petite brèche qui se trouve située près de l'ancienne tour ronde de coin B sur le plan
qui défend l'angle nord-ouest de la baille. Après quoi, je pourrais tenter une sortie et partir en reconnaissance sérieuse à la recherche du camp de Larsan. Allons, Mr. Rance, aux armes. Allez me chercher les armes dont vous disposez ce soir. Moi, j'ai prêté mon revolver au père Bernier, qui se promènera devant la porte de l'appartement de Madame Darzac. Quiconque eût ignoré les événements du Glandier et aurait entendu un pareil langage dans la bouche de Rouletabille n'aurait point manqué de traiter de fou et celui qui le tenait et ceux qui l'écoutaient. Mais, je le répète, si celui-là avait vécu la nuit de la galerie inexplicable et la nuit du cadavre incroyable, il aurait fait comme moi. Il eût chargé son revolver et attendu le jour sans faire le malin.